tous et bienvenue dans ECHO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale. Paradoxe, la Russie est un immense pays continental tout en ayant des côtes très étendues. Mais ses façades maritimes sont très éloignées les unes des autres et connaissent pour la plupart des contraintes importantes. Soit pour des raisons météorologiques en mer Blanche et en Arctique, soit pour des raisons d'accès limité en mer Baltique et en mer Noire. Il n'y a au final que la façade maritime d'Extrême-Orient qui est complètement libre d'accès. Cette situation géographique oblige la Russie à entretenir 5 flottes très éloignées les unes des autres. La flotte du Nord, celle de la Baltique, celle de la mer Noire, celle de la mer Caspienne et enfin celle d'Extrême-Orient. Pays continental, la Russie n'en a pas moins des ambitions maritimes et navales affirmées. Elle les a développées dans sa doctrine maritime, parue en 2000, puis plus récemment en 2022. Alors, pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui M. Igor Delannoy, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, docteur en histoire, spécialiste de la géopolitique de la Russie, des questions de défense russe et de la marine russe. Igor Delannoy, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bienvenue dans ECHO.
Merci, bonjour.
Pour commencer, pour entrer directement dans le vif du sujet, vous m'expliquez qu'il y a un débat doctrinal qui oppose en Russie les tenants de la continentalité du pays et ceux qui, au contraire, misent sur l'ouverture et sur une ambition maritime affirmée, avec des conséquences évidemment sur les moyens attribués à la marine. Quelle est aujourd'hui l'actualité de ce débat ?
Alors, j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs enjeux en réalité qui s'affrontent sous ce débat. Il y a évidemment, et c'est rappelé dans la doctrine navale de 2022, le fait qu'il y a un statut de grande puissance qui est sous-jacent, c'est-à-dire que les grandes puissances, historiquement, avaient la capacité à entretenir une flotte pléthorique, une flotte hauturière, et à se projeter sur les mers du globe. Donc il y a un enjeu de grande puissance, et on sait que dans le projet politique, évidemment, de Vladimir Poutine depuis le départ, c'est de rendre à la Russie ce statut de grande puissance, de faire de la Russie une grande puissance, donc avec ce volet naval. Et il y a aussi, deuxième élément, des enjeux un petit peu plus industriels, puisque entretenir une flotte, et à fortiori une flotte hauturière, ça suppose toute une base industrielle et technologique de défense qui fonctionne, qui est irriguée par des fonds, avec des usines, etc. Et donc il y a aussi un enjeu économique domestique, en tout cas c'est un argument qui est porté dans les sphères qui ont vocation un peu à trancher et à décider sur les orientations à prendre. Et justement, il me semble que ce débat a été tranché depuis quelques années, alors notamment par les arbitrages budgétaires. C'est-à-dire que quand on regarde la répartition sur le plan d'armement actuel, alors faisant abstraction du fait à l'instant qu'il va être très certainement réadapté compte tenu des développements depuis le 24 février 2022, mais le plan d'armement 2018-2027 est très défavorable à la marine. Autant le plan précédent 2011-2020 avait vu la marine recevoir pratiquement 25% de l'enveloppe budgétaire totale, ce qui était colossal, et ce qui était rarement vu, autant le 2018-2027 vraiment lèse la marine, puisqu'il met l'accent sur l'armée de terre, les forces aéroportées, technologies de rupture, sur le cyber, sur l'hypersonique, etc. Et finalement la marine, hormis l'aspect nucléaire, dissuasion nucléaire qui est toujours sanctuarisé, pour ce qui est du reste, elle est assez perdante. Donc c'est un débat qui a été temporairement tranché, disons, par les finances, avec néanmoins des rappels réguliers sur le fait qu'on considéra quand même d'injecter des fonds sur des programmes de développement, des pré-projets de plateformes hauturières, croiseurs, pourquoi pas, grands bâtiments amphibies, et voir réfléchir un peu phosphoré sur les porte-avions. Mais évidemment, tout ceci c'était des réflexions, des commentaires qu'on pouvait entendre avant le 24 février 2022. Et je pense que d'ailleurs, alors le troisième élément de réponse, que effectivement ce qui se passe en Ukraine depuis l'éclatement de la guerre, va évidemment accroître ce constat, à savoir que c'est finalement la direction du continent qui va être privilégiée, en plus des arguments traditionnels qui sont servis, à savoir que historiquement la Russie a eu à subir des invasions par voie de terre et non pas par voie de mer, et que donc, deuxième élément, il faut qu'elle ait une armée de terre et des forces aérospatiales, comme on les appelle en Russie, qui soient donc adéquates. Il y a également le fait que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de frontières naturelles, surtout à l'ouest, qui soient suffisamment sûres. Il n'y a pas de chaîne de montagnes, il n'y a pas de grands fleuves, il n'y a pas de rupture géographique, et donc c'est un élément de souci récurrent, permanent, quels que soient les types de pouvoirs à Moscou ou à l'époque à Saint-Pétersbourg, pour avoir cette lecture des menaces et des défis. Et donc, je pense que ça va être encore cette argumentation-là qui va l'emporter, avec des modes de raisonnement assez élémentaires, finalement. Qu'est-ce sur quoi il vaut mieux investir ? Est-ce qu'il vaut mieux acheter une frégate ou une vingtaine de chars T-90 ? De quoi la Russie a-t-elle plus besoin aujourd'hui ? À mon avis, vu ce qui se passe depuis le 24 février, la réponse paraît assez évidente. Il vaut mieux miser sur des chars que sur des frégates. Bon.
Alors, vous parliez justement des différentes zones dans lesquelles la Russie est amenée à opérer. Alors, le temps, bien sûr, nous manque pour parler des différents théâtres maritimes. Mais en quelques mots, que pourriez-vous nous dire sur la marine russe, au regard notamment du conflit en Ukraine et de ces différentes zones de déploiement ?
Alors, comme je le disais dans la question précédente, autant la marine soviétique était une marine hauturière, hein, autant après 1991, et surtout après les années 90 qui ont été dévastatrices, hein, en particulier pour la marine, cette marine russe a eu tendance à se littoraliser par la conjugaison de plusieurs effets. Tout d'abord, il y a eu le désarmement massif de plateformes hauturières ex-soviétiques qui ont été donc retirées du service et ferraillées, même si certaines ont été maintenues et sont encore en service ou sont en cours de modernisation. Il y a eu également, deuxième effet, la mise à l'eau, assez pléthorique, pour en tout cas au regard de ce qui se faisait avant, de petites plateformes, des plateformes assez modestes, des petits navires lance-missiles, des escorteurs, des corvettes, même si en Russie les corvettes sont quand même plus volumineuses que ce qui peut se faire dans les marines occidentales. Mais donc finalement, on désarme des bâtiments hauturiers, on met à l'eau des bâtiments qui ont vocation à évoluer le long des littoraux, voire dans les zones fluvio-littorales et dans les mers, on va dire, fermées, mais pas forcément en zone océanique, ce qui fait que la longe de cette flotte s'est un peu contractée pour ce qui est de la surface. Pour ce qui se passe sous l'eau, en revanche, les Russes ont réussi à maintenir, grâce une fois de plus à la composante stratégique nucléaire, un rythme de croisière relativement satisfaisant sur la mise à l'eau de sous-marins nucléaires, même si évidemment dans les années 90-2000 il y a eu des complications, mais ils ont réussi à récupérer, je dirais, cette capacité à produire de manière assez honorable. Et pour les sous-marins classiques, à propulsion classique, où là aussi, ils ont la capacité à produire dans des délais relativement satisfaisants des plateformes. Donc une marine qui s'est littoralisée, alors autant pour des théâtres maritimes type Baltique, Mer Noire, Mer d'Okhotsk, etc., ça pose pas vraiment de problème. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a vu, à l'occasion de ce plan d'armement 2011-2020, généreux pour la marine, arriver de manière régulière et, comme je le disais, surtout au regard de ce qui se faisait aux années auparavant, des plateformes type frégate, petit navire lance-missile, corvette, etc. C'était un petit peu la flotte du Pacifique qui semblait relativement oubliée pendant une grande partie des années 2010 et qui a fini par recevoir de manière un peu plus régulière des bâtiments, des corvettes essentiellement, et aussi une revitalisation de ses capacités sous-marines, que ce soit les sous-marins stratégiques ou que ce soit les sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière. Mais une fois encore, ce ne sont pas des livraisons qui sont abondantes. On parle de programmes où vous avez pour les frégates, par exemple, de Gorshkov, qui sont présentées comme étant voilà, un petit peu la solution pour les navigations hauturières en attendant peut-être mieux. Vous en avez aujourd'hui deux en service et vous avez six coques qui sont à différents stades de construction. Donc ce n'est pas pléthorique non plus. Alors ça, c'est un premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est qu'on a vu que sur ces plateformes, parfois très modestes, comme je l'ai indiqué, le déploiement de systèmes de missiles ultra performants et de longue portée. Et ça a été ce qu'on a appelé le phénomène de calibrisation de la flotte russe, c'est-à-dire le déploiement de missiles de croisière longue portée sur des plateformes qui parfois ne déplacent même pas 1000 tonnes. Hein. Donc c'est des choses qu'on voit pas en Occident, que les Russes ont fait. Vous les voyez, ces missiles, sur les frégates, vous les voyez sur les sous-marins, les petits sous-marins classiques, hein, notamment qui est en mer Noire. Et donc une dissémination, une prolifération de ces capacités missiles sur pas mal de plateformes. Donc c'est un deuxième phénomène, ce qui permettait relativement de compenser le manque d'allonge géographique par une allonge en termes de portée de missiles. Et troisième élément de réponse, de mettre en œuvre, de déployer ce qu'on appelle une dissuasion stratégique non nucléaire, c'est-à-dire qui est indiqué dans la doctrine militaire de 2014 hein, d'ailleurs, et donc de faire peser en permanence une menace ou un risque à travers le déploiement de ces plateformes qui ont la capacité à frapper des objectifs avec leurs missiles jusqu'à 2000, voire un peu plus, 2500 km. Donc c'est un peu ce phénomène que l'on a observé et qui permet, du point de vue des Russes, de projeter leur ligne de défense. Hein. Faut pas oublier qu'ils considèrent qu'ils sont sous pression de l'OTAN depuis des années, etc. Le logiciel est comme ça. Et que par conséquent, pour opérer une sorte de manœuvre de désencerclement, eh bien, l'idée c'est de projeter ses capacités sur la Méditerranée orientale, sur l'Atlantique Nord, etc., pour créer, mine de rien, une forme de profondeur, relative profondeur stratégique, et donc réaliser ce que je disais, une sorte de manœuvre de désencerclement.
Alors justement, vous parliez notamment de la flotte du Pacifique. Et à l'heure où la Russie et la Chine se rapprochent militairement et en font largement la publicité, La flotte du Pacifique pourrait-elle jouer un rôle accru dans la région ? Est-ce que vous pensez par exemple qu'elle pourrait être engagée dans un conflit contre Taïwan ?
Comme je vous l'indiquais, elle a bénéficié relativement de l'effort de modernisation qui a été entrepris depuis plus d'une dizaine d'années, principalement avec, en termes de bâtiments de surface, des corvettes, y compris des corvettes dotées de capacités de missiles longue portée, des nouveaux SNLE, puisque la flotte du Pacifique est une des deux composantes navales à être dotée, donc à disposer de, à jouer le rôle de dissuasion stratégique nucléaire. Néanmoins, il y avait encore en service des Delta III de l'époque soviétique qui avaient été modernisés, à la fois en tant que plateforme, mais également avec, en termes de missiles. Et par conséquent, il y avait urgence à revitaliser cette composante-là. Ça a été le cas, puisque la flotte du Pacifique a reçu des nouveaux SNLE de type Borei depuis un certain temps. Et elle a vocation également à recevoir des sous-marins nucléaires de type Yasen, donc fameux sous-marins qui déferlent un peu la chronique, muscler cette composante sur l'Extrême-Orient russe. Donc finalement, c'est pas non plus pléthorique. Quand on regarde l'ordre de bataille de la flotte japonaise, par exemple, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est une flotte qui s'est extrêmement modernisée au cours des dernières années. Il y a évidemment la flotte chinoise, c'est le gros morceau, et puis la dissémination de capacités américaines sur toute la région, évidemment, qui est présente. Et donc, il y a une conflictualité qu'on connaît bien dans la région, avec des contentieux territoriaux à n'en plus finir, sur des îles, sur des parcelles de territoire maritime, donc un potentiel crisogène très, très important. Et il me semble que les Russes, jusqu'à un temps assez récent, étaient quand même assez soucieux de rester en dehors de toute possibilité de conflit, y compris dans la péninsule coréenne, qui est encore un autre dossier explosif de la région, où ils essayaient de s'imposer comme une troisième voie pour essayer de faire valoir un petit peu une sorte de, peut-être pas de médiation, mais en tout cas une possibilité de désescalade, le cas échéant. C'était surtout, on a pu le constater par exemple sous l'administration Trump. Néanmoins, ce vecteur-là coexistait avec celui d'une plus grande densité dans la coopération avec la Chine. Ça, on l'a vu depuis quelques années, notamment à travers la tenue d'exercices militaires conjoints, y compris exercices navals. Et ensuite, l'étage supérieur de la fusée, ça a été les patrouilles communes avec des bombardiers stratégiques, par exemple, qui sont un signal quand même très très fort, et qui les mettaient en porte-à-faux avant le 24 février 2022, avec certains partenaires économiques de la région, la Corée du Sud, le Japon, avec qui c'est quand même des relations, à l'époque, politiques qui étaient non seulement apaisées, mais économiquement assez intéressantes. Évidemment, le 24 février est passé par là, maintenant la situation a radicalement changé. Est-ce qu'il faut s'attendre pour autant à ce qu'il y ait une montée en puissance de la coopération militaire entre la Russie et la Chine ? Sur ce flanc-là, pas dans l'immédiat, parce que les Russes sont évidemment accaparés par le champ de bataille ukrainien. Parallèlement, ils ont évidemment essayé de faire, donner de la substance à ce partenariat de défense avec la Chine, donc ça peut donner lieu à certaines démonstrations. Mais de là à dire qu'il y aurait un engagement de la flotte du Pacifique contre Taïwan, moi je n'y crois pas. En revanche, la formation de ce pacte militaro-industriel qu'est l'AUKUS dans le Pacifique est venue un peu conforter le récit russe autour de l'encerclement, est venu donner forme à cet endiguement, on va dire, alors là pour le coup c'est la Chine qui est visée, par ce qu'on peut appeler l'anglosphère, et ça va dans le sens de plus grande convergence politique et idéologique entre Russes et Chinois. Je ne pense pas que ça va déboucher in fine sur une quelconque forme de pacte militaire entre Pékin et Moscou, je pense que les deux ne sont pas preneurs, ça n'ira pas jusque là, mais ça peut se traduire, oui, par une coopération plus visible, mais avec des tensions capacitaires côté russe qui font qu'on ne pourra pas aller non plus peut-être aussi loin qu'on vous souhaiterait y aller.
Alors pour passer sur un tout autre sujet, on parle de la remise en service du porte-avions Kuznetsov en 2024. Est-ce que cela montre selon vous une volonté de projection de la marine russe ?
Bon, alors moi j'ai des réserves sur la date de 2024, mais admettons que oui, il sera remis en service à un moment donné, que ce soit en 2024, 2025 ou peut-être au-delà, mais le but, il y en a plusieurs. Il y a évidemment la capacité de projection, mais avec toutes les limites qu'on peut imaginer sur une plateforme telle que l'amiral Kuznetsov, qui, à l'origine, je le rappelle, est conçue comme une plateforme qui a vocation à faire de l'interdiction. Et c'est là où je reviens sur mon idée de projection de la ligne de défense. C'est avant tout un moyen pour les Russes de pouvoir projeter sur les eaux du globe, en Méditerranée, ailleurs, un groupe aéronavale, alors qu'il ne faut surtout pas chercher à comparer avec ce que font les Américains ou les Français, même si les Russes aussi parfois essaient de la jouer, on l'avait vu en Syrie notamment il y a quelques années, à la mode occidentale, avec le succès que l'on connaît hein, sur ce volet-là. Mais c'est un outil qui a d'abord vocation à faire l'interdiction de zone. Donc, projection de la ligne de défense, il y a un volet également diplomatie navale, avec hisser le pavillon. Alors certes, c'est une plateforme assez âgée, mais néanmoins, et qui sera encore plus important pour les Russes après la guerre en Ukraine, puisque maintenant, ils sont sur l'idée d'un déploiement tous azimuts de partenariat avec ce qu'on appelle les pays du Sud global. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi, dans ce cadre-là, faire de la diplomatie navale, envoyer des navires, faire des escales, des visites d'escales, etc., tout ce qu'on connaît, hein, avec l'Arabie Saoudite, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, etc. Et par conséquent, dans un contexte où les grosses plateformes de surface vont venir à manquer, ou tout du moins où la voilure va être assez tendue, évidemment, avoir le porte-avions amiral Kuznetsov, en dépit de toutes les limites que l'on peut connaître sur ce type de plateforme, eh ben, c'est pas inutile. Et donc, ils vont s'en servir à cette fin-là. Puis un dernier élément qui peut paraître un peu anecdotique, mais néanmoins, ce sont des plateformes qui ont aussi une certaine valeur sentimentale pour l'establishment maritime russe. Désarmer une plateforme comme ça, c'est, voilà, il faut le faire passer politiquement. La même chose pour des sous-marins, ce sont des plateformes qui ont aussi une valeur sentimentale, ça coûte hein, de les maintenir. Donc à un moment donné, une fois de plus, les finances l'emportent, mais il faut convaincre tout le dispositif qu'il faut s'en défaire. Et ça, il ne faut pas sous-estimer les freins aussi de ce côté-là.
Alors justement, vous parliez de sous-marins... de sous-marins nucléaires, et justement les autorités russes, à l'occasion de la guerre en Ukraine, ont brandi la menace nucléaire à plusieurs reprises. On sait que justement cette flotte sous-marine nucléaire russe est très puissante. Comment est-ce que vous analysez ce discours ?
Si pour les plateformes de surface, ou du moins les grosses plateformes de surface, disons frégates et au-delà de frégates, les chantiers navals russes ont rencontré des difficultés malgré l'abondance de financement dont ils ont bénéficié dans les années 2010, en revanche, pour ce qui est des sous-marins et des sous-marins nucléaires, cela quand même tient plutôt du relatif succès. Ils ont réussi à maintenir la capacité de production et à livrer, certes avec parfois des dérapages dans les plans, hein, mais bon, quelle flotte n'en connaît pas, des plateformes qui sont, comme vous le dites, considérées comme performantes, voire menaçantes. Hein, ce qui leur permet donc d'avoir un volet supplémentaire dans ce qu'on appelle le signalement nucléaire, c'est-à-dire que tant les SNLE n'ont pas spécialement vocation à être, comment dirais-je, affichés, à ce qu'on sache ce qu'ils font, hein, par définition, autant d'autres sous-marins, que ce soit des sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière ou des sous-marins emploi spécial, par exemple, qui sont aussi à propulsion nucléaire, ont évidemment d'autres types de missions, hein, des missions secrètes, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et parfois peuvent rentrer dans cette logique du signalement nucléaire qu'on a vu à l'œuvre dans cette guerre en Ukraine. Et par exemple, j'attire votre attention sur un épisode qui s'est passé en Méditerranée centrale à l'automne dernier, où on a cru comprendre qu'on avait identifié le Severodvinsk, hein, donc le sous-marin nucléaire tête de série du fameux projet Yasen, en Méditerranée centrale. En tout cas, certains experts estiment que c'était lui qui était identifié pas très loin de Malte. Évidemment, ce sont peut-être des choses qu'on va être amené à voir un peu plus fréquemment, parce que vu le contexte, une fois de plus, où il y a un peu de tension sur les plateformes de surface classiques, allons dire, eh bien, les Russes pourraient tenter de compenser ça par des déploiements un petit peu plus fréquents, plus robustes de sous-marins nucléaires, notamment en Méditerranée. Et d'une manière générale, c'est probablement représentatif d'une tendance qui est que dès lors que les forces conventionnelles sont entaillées, ce qui est probablement quand même le cas avec ce qui se passe depuis le 24 février, hein, eh bien, on s'en remet un peu plus à l'atome, on s'en remet un peu plus au nucléaire pour garantir ses intérêts vitaux ou considérer comme tels, mais également pour montrer les dents et faire valoir ses intérêts ou ce qu'on identifie ses intérêts ailleurs sur d'autres théâtres. Donc, je ne serais pas étonné, excusez-moi, qu'on voit un rééquilibrage où finalement, avant, la Russie avait pris confiance avec des forces conventionnelles qui avaient été voilà, modernisées, la Syrie avait montré qu'ils savaient faire des choses qu'on ne soupçonnait pas, etc. Bon, il y a eu et il y a encore cette guerre en Ukraine, et donc qu'elles s'en remettent un peu plus à ses capacités nucléaires pour voilà, faire valoir ce qu'elle estime relever de ses intérêts.
Alors maintenant, en guise de conclusion, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué dans plusieurs de vos réponses, c'est-à-dire les moyens de la marine russe. Est-ce que vous pensez que la marine, justement, a les moyens de ses ambitions maritimes ?
Alors je vais vous faire deux niveaux de réponse. Le premier, c'est effectivement si on s'en tient au texte doctrinal. Ce texte doctrinal, il énonce des grands principes. La Russie est une grande, historiquement une grande puissance navale. Je crois même qu'il est question, alors je ne me souviens plus exactement de la formulation, mais on revendique dans ce texte le deuxième rang en termes de puissance navale. Alors il se réfère au tonnage de la flotte. Donc voilà, ça c'est à relier au statut de grande puissance que j'évoquais un peu plus tôt, d'une part, et d'autre part au fait que, bon, bah, ils tiennent non seulement à ce statut, mais c'est, comment dirais-je, également un moyen pour les marins qui ont probablement été sollicités pour écrire ce texte de graver dans le marbre des grands principes qui aujourd'hui ne sont pas forcément, et c'est un élément de réponse à votre question, d'actualité, compte tenu des carences et des certaines difficultés qu'on a évoquées, mais qui ont vocation à le devenir dans 15-20 ans, c'est-à-dire finalement l'idée c'est de sanctuariser à travers ces grandes déclarations un rang, une importance dans les textes, hein, dans doctrinaux, afin que la marine ne soit pas la grande oubliée des prochains plans d'armement, surtout après le 24 février 2022. Maintenant, si on raisonne au-delà de l'aspect doctrinal en termes d'intérêt, là la réponse est plus nuancée, c'est-à-dire que si jamais on estime que cette marine a d'abord vocation à protéger les littoraux russes, à protéger les approches maritimes russes, alors oui, elle a les moyens de ses ambitions, parce qu'elle a, je l'ai dit, des outils comme des petites plateformes qui sont lourdement armées. On a vu les limites avec ce qui se passe en mer Noire, mais dans un contexte quand même très spécifique. Néanmoins, elle a quand même les moyens de faire valoir ses ambitions et de défendre ses intérêts dans les zones, les eaux brunes, les eaux littorales, etc. Donc ça, à mon avis, là-dessus, il n'y a pas vraiment de problème, d'autant plus qu'en général, de manière assez fidèle à la tradition russe, ces littoraux sont lourdement fortifiés, hein, les batteries côtières, de la défense antiaérienne, des zones de déni d'accès, etc. Donc là, à mon avis, il n'y a pas trop de soucis. Sur les zones maritimes dites éloignées, type Méditerranée par exemple pour les Russes, ce qui ne relève pas des zones maritimes contiguës mais qui n'est pas encore de l'océan mondial, là tout dépend du contexte. Aujourd'hui, le principal adversaire, ce sont évidemment les marines otaniennes. On est dans le cadre d'une confrontation qui est sous le seuil, hein, comme on dit. Dans ce contexte-là, ils ont quand même les moyens, là aussi, on peut penser à la Méditerranée orientale plus particulièrement, effectivement de causer des problèmes, et de défendre leurs intérêts, voire de causer des problèmes, suivant le contexte. Si on passe dans une configuration de conflit ouvert, là, évidemment, c'est une autre dimension. Mais avec l'OTAN, on va très vite tomber sur une dimension nucléaire, donc la question va se déplacer en réalité. Et enfin, sur l'océan mondial, quels sont les intérêts russes dans l'océan mondial? Ils sont de différents ordres. Il y a évidemment maintenir, comment dirais-je, faire de la projection dans la profondeur face à l'OTAN. Bon, ça, c'est principalement les sous-marins qui s'en chargent actuellement. Donc là, elle sait faire. Il y a aller hisser le pavillon auprès des Indiens, des Sud-Africains, etc., dans le golfe Persique. Ça, on a vu qu'ils savent faire. Alors parfois, certes, c'est avec des frégates, mais ils peuvent le faire. Se présenter comme un acteur sécuritaire, comme ils prétendent le faire dans le golfe Persique notamment, ils peuvent relativement le faire, mais en tout cas, ils tiennent à avoir une présence, à s'afficher dans la zone. Donc pour l'instant, ça fonctionne, mais avec les limites que j'ai introduites, à savoir, au niveau capacitaire, il va vite y avoir un plafonnement. Et un nouvel intérêt qui a surgi, c'est la protection, je dirais, de ce qu'on appelle la flotte fantôme, à savoir hein, donc ces bâtiments que les pétroliers russes ont affrétés pour envoyer du pétrole sous embargo à leurs clients, et qui, dans le cadre de cette confrontation très musclée avec la communauté euro-atlantique, eh bien, pourrait faire l'objet d'opérations, d'arraisonnement ou autres. Ça, évidemment, c'est des choses que les Russes ne veulent pas voir arriver, et donc on pourrait imaginer que l'idée serait de protéger cette flotte fantôme avec des navires. Et là, ça va poser problème, parce qu'il y aura un problème de voilure. On parle quand même de dizaines et de dizaines de navires de tankers, hein. Évidemment que là, ce sera difficile de suivre la cadence. Donc là, en revanche, il pourrait y avoir un problème. Donc c'est un peu ces deux niveaux de réponse que je voulais vous apporter, à la fois doctrinal et puis ensuite raisonner en termes d'intérêts nationaux, la façon dont les choses sont perçues depuis la Russie sur les mers du globe.
Eh bien merci beaucoup Igor Delanoë d'avoir partagé avec nous votre expertise et votre point de vue sur ces questions. Vous avez écrit un article pour les prochaines études marines, je crois.
Oui, absolument. J'ai été sollicité pour réfléchir sur quelle pourrait être la stratégie navale de la Russie en Méditerranée, post 24 février 2022, compte tenu des bouleversements qui affectent ce théâtre pour les Russes, avec la fermeture de la circulation militaire dans les détroits turcs, et donc le fait que finalement ce détachement naval russe en Méditerranée est un peu coupé de sa ligne de vie vers la Crimée, Novorossiysk, etc. Donc je réfléchis un peu là-dessus, et donc vous pourrez découvrir ça dans le prochain numéro d'Études Marines.
Exactement. Et ben alors du coup, j'encourage tous nos auditeurs à justement aller poursuivre la réflexion en allant lire votre article, dont je le rappelle, les prochaines études marines apparaîtront consacrées à la Méditerranée. Et à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Echo, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.